un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui ? Hey, êtes-vous prêts pour un nouvel épisode captivant ? Avant cela, je suis ravi de vous annoncer le partenariat avec Gobayava, expert de la mobilité internationale et de l'assurance voyage. À tous les aventuriers qui souhaitent découvrir de nouvelles destinations, Gobayava est là pour vous proposer les meilleures assurances voyage. Je les remercie de m'accompagner pour cette nouvelle saison et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour un petit cadeau. Maintenant, place à l'épisode. Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, je voudrais revenir sur ce petit problème de son sur l'épisode 55 avec mon ami Jonathan. Je suis vraiment désolé encore une fois. Voilà, comme quoi ça peut toujours arriver. Donc, je ferai en sorte que ça n'arrive plus jamais. Donc, profitez bien de ce nouvel épisode. Et Jonathan, je tiens à dire que tu es bienvenu si tu veux refaire un épisode avec moi sur tes nouvelles expériences. Voilà. Aujourd'hui, je vous emmène en Amérique latine. Je vous emmène en Bolivie et je vais recevoir, donc je reçois Élise et Gaëtan. Salut à tous les deux.
Salut Jérémy.
Et je les reçois en direct d'Australie parce qu'ils sont en plein tour du monde. Ils vont nous raconter tout ça. Donc c'est parti. Comment allez-vous?
Bah, ça va très bien et toi?
Nickel.
Ouais, bah écoute, génial. On a un petit décalage. Hein. Comme je disais, vous êtes actuellement en PVT en Australie. Adélaïde, hein, c'est ça?
Ouais.
Adélaïde, ouais. Depuis 10 mois.
Et 10 mois, effectivement, vous arrivez bientôt sur la fin de votre PVT pour continuer votre périple. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'on peut profiter pour cette présentation intro, raconter un peu vous et votre tour du monde ?
Eh ben, je vais commencer. Bah, déjà, merci à toi de nous accueillir sur ton podcast. Du coup, moi, c'est Gaëtan, j'ai 29 ans, je suis originaire de région lyonnaise.
Et moi, donc, c'est Élise, j'ai 28 ans et je suis originaire de Vendée. Et donc, ça fait déjà 19 mois qu'on est en tour du monde. On est parti en février 2022. Et l'objectif est de rentrer en France en juillet 2024, donc après 2 ans et demi sur la route. Et donc là, effectivement, on est actuellement en Australie depuis 10 mois, puisqu'en fait, on a découpé un peu notre tour du monde en plusieurs parties. On a voyagé dans un premier temps en Amérique du Sud, puis en Amérique du Nord, puis un petit peu en Océanie. Et on s'est donc arrêté en Australie pour remettre de l'argent de côté, pour ensuite partir découvrir l'Asie et l'Afrique avant de
rentrer pour les JO 2024.
Voilà, l'objectif c'était les JO.
Super, très bel objectif, les JO à Paris en plus, ouais. Enfin, en France, incroyable quoi.
C'est ça, on pouvait pas louper ça.
Exactement. Et alors, super, un magnifique voyage que on a commencé à discuter tous les trois un peu en off. Moi, je voulais revenir un peu là. On profite hein, de parler un peu de ce côté tour du monde. C'est quelque chose que vous avez dû préparer depuis pas mal de temps quand même pour faire une expérience aussi longue de 2 ans et demi.
On a préparé entre la date où on s'est dit on part faire un tour du monde et le moment où on est parti, c'est passé 29 mois. Donc c'est 29 mois avec des montagnes russes, des changements de programme. On pourrait refaire un podcast entier juste sur cette période.
Ouais, en plus il y a eu le Covid qui est venu pendant cette période de préparation, donc qui a un petit peu remis tout en question parce qu'on avait conçu un itinéraire d'un côté, enfin en partant vers l'Asie, puis l'Océanie, puis les Amériques, et finalement on a dû tout changer, on a dû partir du coup dans l'autre sens, décaler un petit peu notre départ de quelques mois. Donc voilà, ça nous a permis d'économiser dans tous les cas un petit peu plus et finalement c'était pas plus mal.
Donc effectivement, vous êtes parti, donc vous avez commencé par l'Amérique latine, puis remonté sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, vous êtes arrivé en Océanie, donc là, vous renflouez les comptes avec c'est ce ça. PVT en Australie pour redémarrer sur l'Océanie, l'Asie, et puis après, vous finissez quoi par l'Europe, l'Afrique
L'Afrique, on va se le garder une fois rentré en France, quoi, c'est...
J'imagine. Bon, bah, c'est parfait. Je vous remercie déjà d'être venu vers moi pour me proposer de raconter votre expérience, de témoigner sur ce beau pays qui est la Bolivie. Alors, pourquoi vous avez souhaité, là, sur tous les pays que vous avez fait, pourquoi vous avez choisi la Bolivie?
Alors, on a choisi d'en parler de la Bolivie parce que c'est la première claque, en fait. C'est le troisième pays, du coup, de notre tour du monde, puisqu'avant, on était passé au Brésil et en Argentine. Et donc l'objectif, c'était du coup de remonter vers le Pérou, donc en passant par la Bolivie. Et c'est vraiment à la frontière de la Bolivie qu'on s'est vraiment pris la première grosse claque du voyage, vraiment un gros choc culturel. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, là, vraiment, notre voyage en Amérique du Sud commence vraiment, entre guillemets, parce que on a vraiment été immergés direct dès la frontière
dans une autre culture.
Et on s'est dit, là ça va être un pays qui va nous plaire. Et voilà, et aussi, on voulait... c'est vraiment la Bolivie qui a un petit peu guidé ensuite la suite de notre voyage, puisque c'est en Bolivie où on a pu, du coup, tester pas mal d'activités et d'expériences. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, finalement, nous, ce qu'on aime dans le voyage, c'est pas forcément les visites culturelles ou la découverte gastronomique du pays, etc. Nous, c'est vraiment les activités et les expériences un peu insolites qu'on peut faire dans chaque pays. Du coup, c'est vraiment en Bolivie qu'on a pu tester autant de choses différentes en si peu de temps.
Et prendre beaucoup de plaisir.
Et c'est vraiment ça, ouais, qui nous a, après, qui a guidé le reste de notre séjour.
Ok, vous teasez bien hein, l'épisode, c'est génial. On va, j'ai hâte de vous raconter justement ces expériences un peu atypiques. Vous étiez, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est votre troisième pays, vous étiez en Argentine juste avant. De l'Argentine, pour aller jusqu'en Bolivie, comment vous êtes arrivé ?
Par frontière terrestre. Donc on a passé la frontière, donc c'est la Cuyasa, à 2 heures de bus de la première ville en Bolivie, on va dire. Donc voilà, frontière, on a eu un peu de mal parce qu'on était en fin du Covid au moment de passer la frontière et c'était un peu compliqué quoi. Les règles à la frontière changeaient un peu tous les jours, même sûrement plusieurs fois par jour. Et du coup, on était tous les voyageurs qui étaient dans ce secteur à cette période-là, on était un peu tous en stress de passer cette frontière parce que personne ne savait comment la passer. Et puis nous, on est arrivé à la frontière et on a dû faire des démarches administratives. Au pied de la frontière, aller au consulat, faire tamponner un papier.
Il demandait pas mal de documents qui changeaient. Tous les jours, il y avait un nouveau document à avoir. Fallait l'imprimer d'un certain site internet et pas d'un autre. Fallait avoir tel ou tel document. C'était vraiment compliqué à ce moment-là.
Mais bon, ça s'est fait facilement.
Finalement, ça s'est fait. Ils gardent personne à la frontière, hein, mais on a mis un petit peu plus de temps que prévu à la passer. C'était marrant.
D'accord. En plus, la Bolivie, c'est quand même un pays... j'allais dire avec une altimétrie assez importante. Je pense qu'on va revenir dessus. Là, quand vous avez passé la frontière, vous étiez à combien de mètres ?
La frontière, elle était à 2850 mètres.
Rien que ça déjà, ça devait être impressionnant. Et alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être on pourrait retracer votre parcours. Une fois que vous avez passé la frontière, qu'était la première étape ?
Alors du coup, donc on est arrivé dans la ville de Tupiza, qui est une ville un peu étape et qui donne les points de départ pour les road trips en 4x4 vers le sud de l'Ipèze et le Salar de Uyuni. Donc c'est vraiment une ville où beaucoup de voyageurs transitent pour ensuite partir en excursion dans cette région. Et c'est aussi une ville assez sympa.
Type western,
on a un peu l'impression d'être aux États-Unis. On a pu faire une petite balade à cheval dans un canyon. Vraiment, on a vraiment avec un chapeau. Bon, ils donnent tout en plus, ils donnent le chapeau de cow-boy, etc. Ils te mettent vraiment dans l'ambiance et t'as vraiment pas du tout l'impression d'être en Bolivie. On était là, d'accord, on s'imaginait pas du tout ces décors-là.
On a été hyper étonnés en arrivant là-bas, c'est que c'est une ville qui est remplie de tuk-tuk. On s'attendait absolument pas à voir des tuk-tuk en Bolivie. Et on est arrivé là-bas, le moyen de locomotion à Tupiza, c'est les tuk-tuk. Et du coup, nous, on s'attendait à voir les tuk-tuk en Asie et pas forcément rencontré en Amérique du Sud. On n'était pas prêt à ça, en fait. Et du coup, on s'est dit, il y a plein de tuk-tuk, c'est marrant. Du coup, c'est nos premiers tuk-tuk aussi en Bolivie.
Ouais, c'est très improbable.
C'est vrai, effectivement. J'aurais pas pensé aussi naturellement. Et je rebondis juste parce que tu as parlé du Salar de Uyuni. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand désert de sel du monde, c'est ça hein ?
C'est ça, 11 000 km², ouais.
Voilà, donc encore plus grand que ce désert d'Akatama qui, pour moi, était le plus grand. Mais non, en fait, le Salar de Uyuni, c'est un peu l'attraction phare de la Bolivie.
Ouais, c'est clairement toutes les agences, quand ils vendent la Bolivie ailleurs dans le monde ou même en France, c'est la première image qu'on voit dans les guides touristiques. C'est vraiment ce pourquoi certains voyageurs viennent peut-être spécialement faire une étape en Bolivie pour à peine 4-5 jours, pour à peine une semaine. Les gens, ils viennent que pour ça. C'est un peu comme le Machu Picchu au Pérou. C'est vraiment ce qui ressort de la Bolivie. D'accord. Quand on pense Bolivie.
Vous l'avez enchaîné, enfin vous l'avez fait aussi un trek de quelques jours? Comment ça s'est passé
Du
de
coup,
votre côté?
tu prends c'est avec une agence, donc il faut savoir que c'est des agences, comme beaucoup d'expériences en Bolivie, c'est faut être au minimum 4 personnes. Du coup, nous on était deux, et si on était deux, on payait beaucoup plus cher. Du coup, c'est tu pars à quatre avec un guide. Du coup, là, le guide a son 4x4 avec une cuisinière, donc on est 6 en tout dans le 4x4. Et on est parti 4 jours et 3 nuits pour un road trip de 900 km. Donc, on a commencé par le sud Lipès pour finir au Salar de Uyuni.
Wow,
Donc,
génial.
voilà. Donc, c'est 4 jours, 3 nuits. Soit tu es au milieu dans des déserts, des montagnes de 6000 mètres. Tous les jours, tu passes 5000 mètres d'altitude en 4x4. C'est des paysages à couper le souffle.
Ouais, c'est vrai que c'est indescriptible
Est-ce que c'est des
à
paysages lunaires?
Ouais,
Ouais,
c'est ça.
c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on peut s'imaginer avec des flamants roses au milieu des lagunes, la lagune qui donne sur un 6000 mètres en face, le 6000 mètres
Qui
qui
reflète dans
reflète
la
dans la
lagune.
lagune, tellement la lagune elle est calme. Enfin, vraiment, c'est des paysages incroyables. On n'a jamais vu d'autres paysages comme ça ensuite dans la suite de notre
Et
tour du monde.
même encore quand on revoit nos photos, on se dit waouh, mais non, on n'a vraiment pas revu ça,
Ouais, c'est
et
vraiment
on est
unique.
encore étonné de revoir nos photos de cette étape-là, quoi. C'est juste magique, en fait, le sud
Et
d'Ipèze.
donc on passe, en fait, on se suit, toutes les agences un petit peu se suivent parce qu'en fait, on est vraiment en plein milieu du désert. Et du coup, il nous est arrivé de dépanner, enfin, notre agence a dû dépanner d'autres agences qui étaient tombées en panne. Donc on a dépanné quatre fois, on s'est arrêté 4 fois pour dépanner des agences, dont la nôtre.
Dû à
La nôtre.
l'altitude, les voitures ramassent pas mal dû à l'altitude. Du coup, les guides sont à la fois guides, mécaniciens, chauffeurs, guides de voyage, guides touristiques, ils font tout.
Ah, ils font tout. Ils sont. Et du coup, nous, notre guide avait sa femme, donc sa femme, c'était la cuisinière. Et on était. Autant il y a des agences qui partent à plusieurs 4x4, parce que ça peut être. Voilà, c'est des plus grosses agences. Autant nous, notre agence,
Tout
on était le
seul,
seul
ouais.
4x4. Et donc, on se sentait vraiment privilégié à ce moment-là avec notre autre couple d'amis. Et c'était incroyable. On passe 2 jours du coup dans le sud de l'Ipèze. On dormait tout seul dans les logements le soir. C'était des hôtels, des tout petits hôtels où il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau chaude pour se doucher. C'est vraiment très très rustique quand même. Et du coup, le troisième
C'est
jour, on
clair.
arrive au Salar de Uyuni. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est ce que tout le monde attend. Et donc on arrive le troisième jour au Salar pour le coucher du soleil. Donc moment incroyable, c'est pareil, on est tout seul. Enfin, le salaire est tellement grand que là, du coup, les agences font en sorte de pas se mettre à côté des autres. Enfin voilà, tout le monde est
C'est
vraiment
le
éparpillé.
truc le plus touristique de Bolivie.
Et
Et
pourtant, on voit
pourtant, on était
personne.
tout seul et on était le seul 4x4 où on était, quoi. Et genre, il est tellement grand que chaque agence se met et suffit qu'une agence soit peut-être à 2 km de nous. Ben, on voit même pas le 4x4. Tu peux t'amuser. On est resté assez longtemps avec notre guide pour prendre des photos en perspective où on peut faire ça que dans des déserts de sel, quoi.
Ouais, parce que le panorama est tellement blanc et tellement rectiligne en fait sur l'horizon que c'est hyper facile de faire ce genre de photos, mais on pourra faire passer quelques photos pour un
Avec grand
exemple.
plaisir, avec grand plaisir. Et c'est quelle température à cette altitude-là quand vous avez fait ce trek, aussi bien la journée que la nuit?
Il faisait très froid. On a jamais été en t-shirt. Pendant tout ce road trip, on
Beaucoup
n'a
de vent
jamais
aussi,
beaucoup de
ouais.
vent. Et puis très frais, il faisait à peu près ouais, pas plus de 10 degrés, ça c'est certain. Et la nuit, même dans le négatif. Et d'ailleurs, les
Ok.
hôtels, donc le troisième jour, on est au Salar pour le coucher du soleil. On dort dans un hôtel de sel. Ça, c'est aussi la particularité hyper sympa du séjour. Donc un hôtel totalement construit en sel. On dort dedans, évidemment, pas de chauffage ou de choses comme ça. Donc il y a des dizaines de couvertures sur le lit. Tu peux même pas te retourner tellement la couverture est lourde sur toi. Et là il
Génial.
fait très froid. Là il fait très très froid. Ouais, il fait 0 degré dans l'hôtel, quoi. C'est vraiment. Il fait très frais. Et ensuite le dernier jour du coup, on s'est élevé très tôt pour aller retourner sur le Salar pour voir le lever du soleil. Et donc là c'est pareil. Un moment extraordinaire. Des couleurs.
T'avais l'impression d'avoir deux 4x4, que le 4x4 se reflétait
On était
sur
dans
le
une
sol, et
piscine.
du coup il y avait une petite couche d'eau sur le sol. Et du coup, avec le lever du soleil, tu avais l'impression d'avoir deux 4x4 quand tu regardais ton 4x4, quoi. Donc,
c'était vraiment incroyable, ouais. Les réflexions, génial. Et les couleurs sur justement cette partie blanche du Salar. Ouais, vraiment un incontournable à faire en Bolivie.
Ok, super. Et du coup, sur une fois que vous avez vécu cette première expérience assez incroyable, qu'est-ce que vous avez enchaîné sur quoi alors?
Donc du coup, après, on est parti sur la ville de Potosí. C'est une ville minière qui était vraiment très importante avant, dans les années 90. On s'est arrêté visiter une mine. Ça a duré plusieurs jours. Et Gaëtan, du coup...
J'ai ma première tourista là-bas.
Oui, il a eu un mal de montagne suite du coup à la visite suite à l'altitude qu'on avait eue lors du coup du séjour en 4x4 dans le sud d'Ipèze et le Salar du Uyuni, parce qu'on avait atteint les 5000 mètres. Et bon, c'est vrai que là, Gaëtan avait eu un peu de mal avec le mal
c'est
d'altitude.
C'est là où on se rend compte que l'altitude, ouais, c'est faut du temps pour s'adapter à l'altitude.
Ouais, pour s'acclimater.
Pour s'acclimater.
Du coup, voilà, on avait pris une petite pause. Et également à Sucré, ça, c'était ensuite la ville étape qu'on a fait après la ville de Potosí. Et c'est pareil, c'est une ville où on a pris un petit peu plus le temps pour préparer la suite et continuer de planifier un petit peu la suite de notre séjour en Bolivie. Mais c'est vraiment des étapes qu'on a beaucoup aimé préparer.
Okay. La suite des Potosí. Effectivement, c'est la question que je voulais vous poser en termes de ville. Est-ce que c'est une ville type qui ressemble à des villes européennes, à d'autres villes en Asie? Enfin, comment vous pourrez comparer ces villes là-bas?
Donc la plupart des villes en Bolivie, c'est non, ça n'a rien à voir avec. Quand nous, on n'a pas vu ce type d'architecture-là ailleurs qu'en Bolivie. C'est des constructions en terre, beaucoup en briques. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont pas finis. Donc on a jamais eu la réponse de savoir si c'était dû à des moyens. Ils n'avaient pas assez les moyens de finir les immeubles. Donc c'est beaucoup de toits plats. Et la plupart des personnes vivent, t'as un appartement pour une famille et tu vas avoir une cuisine pour tout l'immeuble, en fait. Donc t'as plusieurs familles qui vont cuisiner dans la même cuisine. Du coup, c'est,
Ouais. Ils peuvent vivre à plusieurs, à huit dans une seule pièce. Et,
d'accord.
Ouais, c'est vraiment, quand on en parlait avec notre guide, justement, dans le Salar, c'était vraiment, assez choquant pour nous d'entendre ce genre de choses. On était là, oui, d'accord. Enfin, c'est vraiment à l'opposé de ce que nous, on peut connaître en tant qu'Européens. Et au niveau de l'architecture, tout est très rouge, tout est très en briques, rien n'est enduit ou quoi que ce soit. Et oui, les toits sont pas forcément, c'est des toits un peu en tôle. C'est pas vraiment.
Il y a cette impression que c'est jamais terminé. C'est un pays qui est. Ouais. Assez pauvre en général, enfin, la Bolivie, c'est assez pauvre.
Oui,
c'est quand même très peu développé. On a quand même l'impression de faire un retour dans les années 90, rien qu'en voyant les voitures qui circulent. C'est quand même des vieilles voitures, des marques ou même des modèles de voitures qui n'existent plus du tout en France ou qui n'ont plus l'autorisation de circuler en France. C'est vraiment. On recule vraiment en arrière. On a vraiment l'impression de faire un bond de 30 ou 40 ans en arrière quand on arrive en Bolivie. Nous, c'est ce qu'on a ressenti en tout cas.
Génial.
Après, la ville de Sucré, pour rebondir sur la ville, sur l'architecture, ouais. C'est vraiment cette ville qui est la plus jolie. Tout est blanc, tout est enduit. Et là, c'est vraiment une ville un petit peu type colonial, très très jolie. Là, on a beaucoup aimé.
Génial. Et justement, je voulais faire une comparaison avec la capitale, avec La Paz. Vous avez pu y aller là-bas?
Ouais, on était à La Paz. On s'est servi de La Paz en fait de ville rond-point. C'est la ville qui a desservi un peu tout le reste de nos activités. Elle était centrale et du coup, c'est elle qui nous a permis de construire la suite de notre voyage.
Et oui, au niveau de La Paz, du coup, La Paz c'est la capitale la plus haute du monde. Donc, il y a un de ces quartiers qui est situé à 4150 mètres et le reste de celle de la ville est à 3620 mètres. Donc, il y a quand même une belle différence. Et en fait, c'est une ville qui est toute en cuvette. Et tout autour, il y a plein de sommets à 6000 mètres qui culminent, à plus de 6000 mètres qui culminent.
Incroyable.
Et du coup, c'est pareil, c'est une ville qui est toute en briques, toute rouge, etc., avec quelques couleurs sur certains quartiers quand même. Et là, c'est une ville qui se visite en fait. Enfin, le moyen de transport de la ville et des habitants, c'est le téléphérique. Et donc, en fait, les téléphériques vont de quartier en quartier. Donc, les quartiers y a pas mal de quartiers en hauteur et du coup toute la ville qui est aussi en dans la cuvette et donc les téléphériques descendent et montent donc, toute la journée, et toutes les lignes en fait font un tour.
Et t'as une très grosse contraste du coup avec les constructions des les immeubles qui sont très anciennes et en fait les téléphériques qui sont les mêmes téléphériques qu'on pourrait trouver dans les Alpes, c'était même une marque suisse la plupart des téléphériques et qui sont les stations des téléphériques, c'est des téléphériques qui sont flambant neufs quoi, c'est vraiment les derniers téléphériques que tu pourrais trouver dans les Alpes et du coup t'as cette contraste là où tu prends les stations dans des buildings flambant neufs et tu survoles des immeubles, des quartiers,
des bidonvilles un peu ce qu'on pourrait ouais. C'est choquant de voir certains quartiers comme ça qu'on survole en téléphérique.
Et c'est excellent de voir ça du dessus. C'est une des seules villes, je pense, au monde où tu as autant de téléphériques et tu peux voir.
Et du coup, ça devient presque une attraction un peu touristique où nous, on a pris un billet pour 1h30 en train de faire tout le tour des téléphériques pour découvrir tous les panoramas de la ville. Et c'est hyper sympa. On est dans une bulle, c'est silencieux alors que...
Clairement, c'est un peu une particularité quand même de l'Amérique du Sud, hein, parce que ok pour la Bolivie, mais j'ai vu au Brésil qui faisait la même chose. J'ai vu en Colombie, tu pouvais survoler, pareil, les quartiers comme ça, même les favelas, etc. Donc, c'est un peu une particularité quand même de l'Amérique du Sud. Et écoutez, si vous avez pu visiter un peu en prenant de la hauteur, le paysage, le contraste, en plus, si vous avez des monts à 6000 mètres tout autour, ça doit être vraiment incroyable, quoi.
Ouais,
c'est super. Bien. Écoutez, je voudrais qu'on continue un peu parce que vous m'avez vendu des excursions. Déjà une première qui était géniale, c'est clairement ce désert de sel. Il me semble en Bolivie, vous avez la forêt amazonienne aussi. Ouais. Est-ce que vous avez été faire un petit tour?
Ouais, alors on a été du coup dans la forêt amazonienne, donc on a pris un bus de nuit pour s'y rendre et en 12 heures de bus, on était déjà tout au nord du coup
de la Bolivie.
Au nord de la Bolivie du coup dans la forêt et on a fait en fait une excursion avec une agence de 5 jours au total, découpée en deux, c'est-à-dire 3 jours dans la jungle, donc dans la selva comme ils appellent ça et 2 jours dans la pampa, donc un petit peu dans les marécages. Donc ça s'est vraiment coupé en deux. Et donc les 3 jours dans la jungle, ça ressemblait à des randonnées coupées avec notre guide qui coupait à la machette le chemin pour aller se balader sur les hauteurs. Il y a eu une nuit où on a dormi un petit peu en mode Koh-Lanta à même le sol avec juste une moustiquaire pour nous protéger des moustiques. On a dû pêcher notre poisson dans la rivière. La rivière marron, tu vois, un petit peu où t'as pas trop confiance, des choses comme ça qui peut se trouver à l'intérieur.
On a failli marcher sur un serpent.
On a failli marcher sur un boa qu'on a vu.
Je suis passé par-dessus lui et j'étais 30 mètres avec le guide à l'avant. On n'avait pas marché dessus parce que je pense qu'il nous aurait mordu, mais on est passé à 30 cm de lui et puis derrière, Élise et la fin du groupe. Se sont retrouvés nez à nez avec lui au milieu du chemin et on était bloqués par le boa qui était entre tous les 6.
On n'a pas vu tant d'animaux que ça, à part, surtout dans cette partie-là de la selva, à part justement ce serpent, beaucoup d'araignées quand même, des grenouilles venimeuses, des choses comme ça. On a même fait une marche nocturne du coup avec notre guide où ça fait un peu peur, on se dit oh là là, sur quoi on pourrait tomber à ce moment-là. Mais voilà, ça a été vraiment. 3 premiers jours très marquants.
C'est ouf quand même ce genre d'expérience où clairement vous sortez vraiment de votre zone de confort finalement. Vous allez quelque part à l'aventure et vous suivez votre guide, limite vous lui faites une confiance aveugle parce que vous savez pas où vous allez ni rien quoi.
Non ouais.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, surtout que il parle espagnol, on baragouine un petit peu de l'espagnol mais on n'a pas un super niveau non plus donc... Oui, c'est vrai que s'il nous arrive quelque chose, ou même s'il arrive quelque chose à notre guide, parce que finalement il est tout seul à nous accompagner, on ne sait pas vraiment. Et puis on est totalement perdu, on ne sait pas du tout où on est. On a marché 3h30 pour arriver à notre campement. On serait incapable de retourner dans le petit village dans lequel on était arrivé à l'arrivée. Donc oui, il ne faut pas qu'il nous arrive quelque chose. On prenait soin de notre guide, en effet.
Ok, belle expérience en forêt amazonienne, mais est-ce que la forêt amazonienne était aussi en altitude élevée ou vous êtes redescendu du coup parce que là il y a des écarts incroyables?
C'est la particularité de la forêt amazonienne en Bolivie, c'est que tu pars de La Paz à 3025 mètres et tu arrives à Rurrenabaque qui est à 274 mètres.
Ouais, donc tu perds 3500 mètres d'altitude en 12 heures de bus dans la nuit. Et ensuite, quand tu retournes à La Paz, du coup, donc après, on a passé 2 jours dans la pampa, donc en marécage, pirogue, baignade avec des dauphins roses, etc. Toute une autre expérience à se balader avec les caïmans, etc. Et on retourne sur La Paz, et là, on se reprend du coup 3500 mètres d'altitude de l'autre côté, quoi, dans l'autre sens. Donc, pas facile au niveau du corps.
Je voudrais bien rebondir là-dessus, parce que vous parliez du mal de montagne, tourista forcément, mais mal des montagnes, vous l'avez subi? Comment ça se passe? C'est venu une fois, deux fois? Comment vous avez géré ça, ce mal des montagnes?
Moi, je l'ai subi quotidiennement pendant tout le mois passé en Bolivie. Donc, le mal des montagnes, moi, c'était des diarrhées, des touristas, ça partait, mal de tête. Ça partait et ça revenait. Du coup, je l'ai eu 3 fois dans le voyage, ouais.
Trois fois réellement où ça avait été compliqué. On a même fini par appeler le médecin de notre assurance à un moment parce que ça passait pas et ça devenait vraiment trop compliqué.
Et Elise ne l'a pas subi, par contre.
Moi, je l'ai pas vraiment trop ressenti. Alors après, en Bolivie, du coup, on est prévenu, entre guillemets, puis les locaux nous préviennent aussi de tous les effets qu'on peut avoir, etc. Et il y a un petit peu des remèdes locaux.
Boire beaucoup d'eau déjà.
Ouais, boire, s'hydrater du coup énormément. Et aussi, ils vendent ce qu'ils appellent la feuille de coca. Donc, c'est une vraie feuille. Donc, eux, ils la mâchent comme ça, naturellement, directement en bouche. Il existe aussi des pastilles, genre de bonbons, bonbons à la coca, donc ça c'est peut-être un petit peu plus simple, ou alors des infusions de thé, des choses comme ça. Donc il y avait pas mal de choses comme ça, on essayait dans les auberges, il y avait toujours des infusions de thé de coca qu'on pouvait se faire, ou alors de la feuille de coca sur les marchés qu'on pouvait acheter et mâcher, ou alors des bonbons de coca qu'on pouvait acheter également. Donc nous on n'hésitait pas quand même à acheter ces bonbons-là et ces infusions essayer de limiter la casse, on va dire. Mais c'est vrai qu'on sait jamais vraiment comment notre corps va réagir. C'est, il n'y a pas besoin d'être sportif ou des choses comme ça pour ressentir des effets. C'est vraiment aléatoire et ça peut être n'importe qui. Ouais. Des fois, ça peut l'être, des fois, ça peut ne pas l'être. Ça dépend vraiment.
Très bien. Écoutez, vous m'avez parlé pas mal des montagnes là, à 6000 mètres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté? Est-ce que vous avez fait tenter l'expérience ou est-ce que vous voulez juste regarder de loin?
Alors, on les a d'abord regardés de loin, et puis on les a tellement regardés de loin qu'on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'en gravir une? Et on a tenté l'expérience de gravir un 6000 mètres. Donc, c'était notre première expérience d'alpinisme.
Génial.
Et c'est le 6000 mètres le plus facile au monde.
L'un des plus faciles au monde.
Et puis aussi l'un des moins chers, l'excursion, quoi,
toute l'activité, toute l'expérience de 3 jours, 2 nuits, ça nous a coûté 120 euros par personne. Donc c'était vraiment comparé à des excursions par exemple
dans l'Himalaya
ou le Kilimanjaro.
On peut pas comparer, bien sûr.
Ouais, c'est incomparable, c'est vraiment et en plus c'est plus haut, donc c'est vraiment dérisoire. Et ils nous fournissent tout, du coup on est passé par une agence qui nous a fourni tout l'équipement d'alpinisme, les crampons, le piolet, etc., les grosses vestes, les gros gants, les duvets pour dormir dans les camps de base, etc. Enfin, tout était prévu. Et du coup, on a effectivement tenté l'expérience. Donc, on est parti sur le Guayana Potosí qui culmine à 6088 mètres et qui, du coup, se situe à 2h30 de La Paz.
Il faut savoir que le camp de base, le jour 1, tu dors à 4800 mètres d'altitude, donc à la hauteur du Mont Blanc.
Ouais, c'est assez déroutant de penser à ça. Et donc, le jour 1, effectivement, on arrive au camp de base, du coup, en 4x4. On dort à 4800 mètres et il y a un entraînement dans l'après-midi.
Pour apprendre à marcher avec les crampons sur la glace.
Apprendre à marcher avec les crampons et utiliser le piolet. Et ensuite, le jour 2, on monte en randonnée, donc avec tout l'équipement d'alpinisme.
On était très lourd, on avait 17-18 kilos sur le dos. Les bouteilles d'eau, les repas pour le soir.
Ouais. C'est ça, et on monte au deuxième camp de base qui se situe à 5200 mètres. Donc là, nous, on n'était jamais monté si haut, hein. 5200, c'est...
En marchant, en randonnée, ouais.
Ouais, en randonnée, ouais. Et donc, après, on s'endort à 18h30, on se réveille à 23h30, donc on dort très peu, puis à cette altitude, c'est très difficile de dormir.
Beaucoup de stress.
Et puis oui, on était forcément un peu stressé par l'objectif, parce que c'est plus qu'une activité, là, c'est vraiment un défi qu'on s'est lancé dans notre tour du monde, en se disant, est-ce qu'on en est capable? Et donc, on se réveille à 23h30, on part à minuit 45, donc ça y est, c'est le jour 3, le jour de l'ascension, et puis on grimpe encordés avec un binôme, notre guide. On avait un guide chacun. On était 10 au total dans notre groupe. On était en binôme avec un guide. Donc, il y avait 5 cordées. Et donc, on grimpe les uns devant les autres. Et puis, on est à la frontale. Il fait nuit noire. Il fait pas si froid. Franchement, on avait eu de la chance au niveau des conditions.
Et tu te concentres sur le souffle et sur tes pas.
C'est vraiment un pas après l'autre. Et on se concentre. On s'arrête toutes les 5 minutes pour souffler parce que vraiment, le souffle est très court à ce moment-là. Et c'est une montée.
Vous le ressentez beaucoup?
Ouais, on le ressent beaucoup.
Ouais. Bah, surtout qu'on est en plein effort, en fait. Encore, on serait juste à 5000. Quand on était à 5200 mètres au camp de base, on le ressentait pas forcément parce que, bah, on était statique, on va dire. Donc, on sent que c'est quand même plus restreint, mais c'est pas non plus coupé. Mais là, on est en train de faire un effort et en train de grimper encore plus haut à chaque pas. Oui, là, on ressent que c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué.
Incroyable.
Du coup, on essaye de
et
mâcher de la coca,
alors
les guides nous donnent de la coca. Et alors cette ascension,
on pourrait avoir deux récits de l'ascension parce qu'on l'a vécu complètement différemment.
Et finalement, on l'a pas vécu ensemble.
Ouais, on l'a pas vécu ensemble. On s'est désencordé parce que Élise a eu beaucoup plus de mal à monter. Puis du coup, moi, je suis allé partir avec des autres et au final, moi, je suis arrivé à 6000 mètres, mais j'ai pas réussi à faire le sommet. Donc je me suis arrêté à 6048 mètres. Il manquait 40 mètres pour faire le sommet. Et c'était les 40 mètres où fallait en arriver au lever du soleil et fallait se dépêcher avant que le soleil arrive pour éviter que la neige fonde et que des crevasses apparaissent pour la redescente. Et du D'accord. coup, sur les 10, on est 5 à s'être arrêté à 6000 mètres parce que le rythme que demandaient les guides pour arriver au sommet, je pouvais pas le supporter, quoi. Je me suis évanoui sur la redescente. Du coup, voilà, quoi, j'atteins les 6000 mètres.
Ah oui.
Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment deux récits différents. On s'est désencordé après à peine une heure d'ascension. Et donc moi, en fait, j'ai fini avec mon guide toute seule. J'étais la dernière du groupe, mais je voyais même plus parce que de nuit, du coup, on voit que les petites lampiotes qui montent au fur et à mesure des lacets. Mmh. Moi, je voyais plus personne. J'étais clairement très en retard. Donc moi, vraiment, le moral, il n'était pas vraiment là. J'avais vraiment beaucoup de mal à rester motivée et mon guide me motivait pas forcément en plus. Et donc voilà, bref, on continue de monter, etc. Et au bout de 4 heures d'ascension, il y a un mur à 35 mètres qu'il faut monter au piolet. Donc c'est un peu la seule fois où il faut vraiment utiliser le piolet en mode alpinisme.
Ouais.
Donc là, bon voilà, on le grimpe et là j'arrive à rattraper la cordée de Gaëtan et toutes les autres cordées finalement de notre agence, enfin toutes les autres personnes avec qui on était partis. Donc moi, ça me remotive. Je revois un petit peu. Tout le monde, ils avaient l'air vraiment au bout du rouleau. Donc, je me suis dit, bah mince, alors, on va essayer de tous se remotiver. Et finalement...
Elle a fait le sommet.
Et finalement, moi, je suis arrivée au sommet, effectivement.
Tu as fait le sommet, toi, Élise.
Moi, j'ai réussi à monter jusqu'au sommet.
C'était du coup, les guides, elle a eu tellement une montée progressive et elle a eu tellement un peu plus de mal au début que même les guides, en fait, il y a un créneau horaire, du coup, dû à ces crevasses. Et les guides faisaient que dire... c'est pas possible qu'elle atteigne le sommet parce que du coup elle est pas assez rapide avant ce mur.
Il y avait clairement en fait, personne qui croyait en moi.
Le fait de nous avoir retrouvés après le mur, c'est qu'elle a réussi à nous rattraper alors que tout le groupe d'avant lui avait mis. Avait mis pas mal d'avance sur l'ascension.
J'étais assez constante et du coup finalement quand je les ai retrouvés, moi j'avais toujours j'avais la pêche quoi, ça allait. Et puis j'avais retrouvé un petit peu la motivation. Mon guide m'avait dit si on continue à cette vitesse, ça peut le faire pour le sommet. Moi, ça m'avait reboosté. Et finalement, voilà, au fur et à mesure, après moi, j'ai pas arrêté de marcher et du coup, j'ai réussi à monter jusqu'au sommet. Malheureusement, il faisait pas un temps éclatant, sans nuages ou quoi. C'était très encombré, on voyait pas grand chose. Mais bon, l'objectif était là, le sommet.
L'objectif était rempli, ouais. Et justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Quelle vue on a à 6000 mètres d'altitude? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous retenez de cette ascension?
Et de la nuit, en fait.
La première partie de l'ascension, on voit rien, puisqu'il fait nuit. Et ensuite, au lever du soleil, là, on était hyper impressionnés lors de la redescente. C'est incroyable, finalement, on voit toutes les crevasses sur lesquelles, à côté, qu'on a pu éviter, en fait, durant la nuit. Et là, on se dit, ah ouais, vraiment, les guides connaissent parfaitement le parcours parce que.
Dans la montée, on a vu zéro crevasse, quoi.
Ouais, dans la nuit, on les voit pas, alors qu'elles sont juste à côté. Elles peuvent être à 2-3 mètres, mais avec les petites lampes qu'on a, on les perçoit pas. Et c'est impressionnant. Après la vue, bah, nous, du coup, à 6088 mètres, on voyait absolument rien. C'était vraiment très, très couvert. Mais c'est juste en redescendant qu'on a pu voir
5005,
après
ouais.
Voilà, toutes les lagunes autour, tous les paysages, tous les autres massifs et tous les autres du coup montagnes avoisinantes. C'est vraiment magnifique. Mais c'était vraiment, en génial. Vrai, c'était vraiment pas forcément pour le paysage qu'on y allait, c'était vraiment pour le défi d'arriver.
Bien sûr.
Bien sûr.
Super.
C'était vraiment incroyable.
Ouais, c'est comme un surpassement de soi finalement. Hein. Donc c'est quelque chose que vous pouvez cocher en disant 6000 mètres, on a réussi. Prochaine étape, 7 ou 8000, quoi.
Non, peut-être pas 7000, mais...
En vérité, on a mis longtemps à se dire que c'était une belle expérience. Ouais. Enfin, moi, c'est vrai que j'avais du mal à me dire... à chaque fois, je disais, c'est vrai que c'était la plus belle et la plus dure en même temps expérience qu'on ait pu faire. Et donc, se projeter sur une nouvelle ascension, ça n'a pas été tout de suite. Là, maintenant, c'est vrai qu'avec du recul, on pourrait se projeter sur une nouvelle ascension. Mais forcément, on aimerait aller au-delà de cette altitude. Donc, à voir dans quel pays on peut réaliser ça.
Génial. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la forêt amazonienne, qu'on a vu ce désert de sel, qu'on a vu des ascensions à plus de 6000 mètres, il y a quelque chose, moi, que j'ai vu quand tu regardes Bolivie, c'est ce fameux lac Titicaca, là, avec la frontière avec le Pérou, c'est ça, non? Je crois
le Pérou, c'est ça. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que vous l'avez fait? Ah, c'était peut-être votre étape pour ensuite aller au Pérou pour continuer votre voyage?
Ouais, alors en fait, du coup, le lac Titicaca, nous, on l'a pris un peu comme étape intermédiaire pour se réacclimater après la forêt amazonienne et avant, du coup, notre ascension du 6000 mètres. Puisque, du coup, le lac Titicaca, d'accord. C'est le lac le plus haut du monde qui culmine à 3800 mètres. Donc, c'était. En passant de 200 mètres d'altitude pour se réacclimater, c'était parfait pour quelques jours. On est allé faire une randonnée sur une des îles côté bolivien du lac, donc qui s'appelle Isla del Sol, et donc c'était vraiment vraiment incroyable. En effet, le lac du coup est séparé est à cheval entre les deux pays, donc entre la Bolivie et le Pérou, et donc c'est aussi l'endroit où tu peux passer la frontière à pied pour accéder au Pérou, et c'est ce qu'on a fait ensuite à la suite de notre ascension. Du coup, on a quitté la Bolivie pour aller au Pérou, et on est effectivement repassé du coup autour du lac Titicaca pour traverser la frontière.
Super, magnifique. Franchement, vous m'avez vraiment donné beaucoup envie sur votre voyage. Clairement, si on sélectionne juste cette partie de la Bolivie, là, vous êtes resté quand même un mois. Qu'est-ce que cette expérience vous aura apporté personnellement à tous les deux?
Ce qui nous a rapporté, c'est vraiment on s'est rendu compte que à ce moment-là, que notre tour du monde tournerait plus sur les activités. Et ça nous a aussi apporté le fait de plus trop faire un peu le voyage des autres. Donc, beaucoup de voyageurs, il y en a, ils voyagent pour la gastronomie, il y en a certains, ils voyagent pour l'architecture. Et du coup, nous, avant la Bolivie, on se cherchait un petit peu dans, pourquoi on voyage, en fait. Et du coup, on s'est rendu compte, après la Bolivie, que maintenant nous, ce qu'on aime, c'est faire des activités, se dépasser, faire des randonnées, faire plein d'expériences, découvrir des choses qu'on peut faire que dans les pays dans lesquels on va. Et du coup, quoi, moi, ce que la Bolivie m'aurait apporté.
Ouais, et on s'est aussi rendu compte avec ce choc culturel, c'est cet effet-là aussi que la Bolivie nous a apporté, c'est que on s'est dit, ok, là, il y a vraiment des personnes qui vivent très différemment de nous, et on n'avait pas du tout perçu avant du coup la Bolivie. Donc on s'est vraiment dit, ouais, là l'Amérique du Sud, c'est quelque chose qui va nous rester, et on n'a plus le droit de se plaindre en France de tout ce qui nous arrive ou des conditions dans lesquelles on vit, etc. C'est vraiment on s'est vraiment rendu compte qu'on était très chanceux d'avoir un passeport français et d'être français, et c'était ça nous a vraiment mis une grosse claque culturellement.
Super. Bah écoutez, je retiens quand même beaucoup d'informations, c'est génial. Merci à tous les deux. Et ma dernière question, quel est le conseil que vous donnerez à toutes les personnes qui souhaiteraient vraiment réaliser la même expérience que vous, qui viendraient en Bolivie pour ce côté dépassement de soi, vraiment trouver les expériences atypiques?
Le premier conseil, ce serait peut-être de pas sous-estimer l'altitude. Par exemple, ne pas se dire je pars en vacances de France, j'arrive 15 jours en Bolivie et je voudrais vivre par exemple ce 6000 mètres ou vivre juste faire de l'altitude et partir directement, prévoir le deuxième jour des excursions en altitude parce que il faut une acclimatation, ça peut être très dangereux pour la santé. Du coup, il faut aller doucement et essayer de construire un itinéraire qui permet de monter en altitude progressivement pour essayer de s'acclimater le plus possible et de éviter de subir le mal des montagnes.
Ouais, c'est vraiment l'un des meilleurs conseils qu'on pourrait donner.
Et puis un deuxième conseil, on pourrait conseiller à tout le monde d'aller sur les groupes Facebook, les Français en Bolivie, où c'est une mine d'or d'informations et ça aidera beaucoup la plupart des personnes à construire un itinéraire, à trouver des guides sur place aussi. Il y a tous les guides qu'on en a pu trouver pour le voyage ont été trouvés sur ce groupe-là, les Français en Bolivie.
Il y a beaucoup de noms qui circulent, des bonnes agences, des agences recommandées, certains noms de guides, avec notamment les contacts WhatsApp, etc. Donc c'est très important. Ouais, c'est une bonne mine d'informations.
Parfait. Je retiens vos deux conseils. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci d'avoir pris le temps d'enregistrer à distance comme ça, en direct de Adélaïde en tout cas. Et puis reste un peu moins d'un an maintenant pour être là pour les JO. Alors je ne peux que vous souhaiter un très bonne fin de road trip de tour du monde. Profitez bien et puis donnez-nous des nouvelles. On mettra les liens sur les réseaux en tout cas. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et de les inscrire sur ce podcast. N'oubliez pas également de vous abonner, vous serez directement informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et pour me montrer votre soutien, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, suivie d'un petit commentaire. Je vous en remercie du fond du cœur. Gobayava est mon partenaire pour cette saison 4 et avec le code promo Odyssée, ODY2S2E, bénéficiez d'une réduction de 5% lors de la souscription de votre contrat d'assurance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.